L'actualité avec Orange Monnaie. Transfert international entre la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso et le Niger.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Dans un instant, vos réactions sur la Libye après les critiques du président Macron concernant l'intervention de l'OTAN en 2011. L'Europe et les États-Unis ont une responsabilité dans la situation actuelle de la Libye. Voilà les propos du président français qui s'est exprimé jeudi dernier devant le Parlement tunisien. Vos réactions dans un instant, donc 33 9 693 693 70. Mais d'abord, Philippe, vous êtes toujours avec nous ?
Tout à fait.
Voilà, vous nous aviez posé quelques questions juste avant le journal concernant la décision du tribunal arbitral du sport de lever les sanctions contre un certain nombre de sportifs athlètes russes suspendus, rappelez-vous, il y a quelques mois par le comité international olympique. Arnaud de Rendinger, expert et consultant en sport international et en olympisme, est également avec nous. Et vous nous disiez, Armand de Rendinger, juste avant le journal, que pour justifier cette décision, le tribunal arbitral du sport avait tout simplement dit ne pas avoir suffisamment de preuves pour établir que ces athlètes russes s'étaient dopés.
Oui, c'est exactement ça. C'était le fait de n'avoir pas cette preuve. Et d'autre part, considérer que de condamner en quelque sorte à vie des athlètes sans preuves suffisantes était contraire au droit. Mmh. Ce qui est assez étonnant, puisque quand on regarde la composition du TAS, et ses représentants au sein de son conseil, il y a beaucoup de membres relevant de la gouvernance sportive olympique, dont du CIO. Par exemple, le président d'un des conseils du TAS est John Coates, président du Comité national olympique, australien, membre du CIO. Donc, il y a une sorte de débat, de combat, de, en quelque sorte d'ego et de chef, entre tous ces organes, qui soi-disant sont, je dirais, n'ont aucun conflit d'intérêt, sont séparés, or, ils relèvent de la même obédience. Oui. Ce qui pose quand même un sérieux problème en ce qui concerne la pertinence des décisions qui sont prises par le CIO, par le TAS, et même par les comités nationaux olympiques, comme celui de Russie.
En tout cas,
le résultat, c'est qu'aujourd'hui, chacun campe sur ses positions. Bien sûr, le TAS a blanchi 39 athlètes russes, mais le CIO considère que 13 d'entre eux, en aucun cas, ne pourront participer aux Jeux Olympiques. Et le Comité national olympique russe est toujours interdit aux Jeux de Pyeongchang.
Effectivement, il faut dire que les 169 athlètes russes qui vont participer à partir de la fin de la semaine de cette semaine aux Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud, ces athlètes seront sous la bannière olympique et sous l'appellation athlètes olympiques de Russie. Alors, Philippe, vous aviez une autre question rapidement.
Oui, la seconde question, c'était que la Russie avait décidé d'organiser ses propres jeux. Comment va-t-elle les organiser ?
Alors, c'est Vladimir Poutine qui l'a annoncé la semaine dernière. Il veut organiser sa propre compétition, autrement dit, des contre-jeux olympiques, c'est bien cela, à Armand de Rendinger ?
Oui, c'est ce qu'a dit le président Vladimir Poutine, qui est le président, en quelque sorte, qui fait un peu le plus dans l'histoire olympique, en soi. Ça se passe d'autant plus, tous ces problèmes de dopage se sont passés lors des Jeux de Sochi. Donc, il considère que la décision du TAS lui donne raison. C'est un succès pour la Russie et un camouflet pour le CIO, ce qui, à mon avis, n'est pas du tout le cas. Donc, il a décidé d'organiser, en quelque sorte, des contre-jeux, mais qui n'ont aucune valeur en soi, puisque organiser des contre-jeux, ils doivent se faire avec l'accord du CIO, qui est propriétaire des Jeux, et des fédérations sportives pour les sports d'hiver, notamment, qui sont propriétaires, j'allais dire, des athlètes qui pourraient concourir. Donc, on peut imaginer même que si Vladimir Poutine décide d'organiser des contre-jeux pour se faire, entre guillemets, plaisir, les athlètes pourraient eux-mêmes être exclus par la suite pour manifester à d'autres, pour participer à d'autres manifestations de nature olympique. Donc, on va accroître encore le fossé juridique qui pourrait exister entre ces différentes instances.
Effectivement, c'est le serpent qui se mord la queue. Merci beaucoup Armand de Rendinger d'avoir été avec nous et d'avoir pris le temps ce matin de répondre à Philippe qui nous appelait de Lomé. Il est 9h45 ici à Paris à suivre notre débat consacré à l'intervention de l'OTAN en Libye. C'était, rappelez-vous, en 2011. Plus de 6 ans après, cette intervention continue à susciter la polémique. D'ailleurs, jeudi dernier, devant le Parlement tunisien, le président français a reconnu que cette intervention avait été une erreur. Quoi qu'on pense d'un dirigeant, a-t-il affirmé en référence à Muammar Kadhafi, cette responsabilité a consisté à imaginer qu'on pouvait se substituer à la souveraineté d'un peuple pour décider de son futur. Emmanuel Macron a d'ailleurs profité de l'occasion pour pointer du doigt l'absence de projet pour gérer la suite. Autrement dit, la France, les Européens et les Américains ont certes provoqué l'effondrement du régime Kadhafi sans pour autant proposer d'alternative. Alors que vous inspirent ces propos? Vous nous rejoignez 33 9 693 693 70. Beaucoup de réactions, des centaines de commentaires postés sur la page Facebook de l'émission. Par exemple, Adama salue le courage d'Emmanuel Macron qui reconnaît que l'intervention en Libye est une grave erreur, pour ne pas dire la cause de l'instabilité sécuritaire actuelle du Sahel et plus particulièrement de mon pays, le Mali. Amos estime qu'Emmanuel Macron fait preuve de réalisme. La France doit maintenant faire preuve de repentance en travaillant à ramener la paix dans ce pays, nous dit également cet auditeur. Bonjour Abderrahman.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Bamako, vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous appeler du Mali ce matin, et vous attendez de la France qu'elle assure, je reprends votre expression, le service après-vente.
Tout à fait Juan, et je suis très content et puis j'ai de l'espoir quand j'ai entendu ces propos émanant de Emmanuel Macron. Je le félicite pour ce courage politique déjà de reconnaître les torts de l'intervention française et occidentale au niveau de la Libye. Ben, j'ai de l'espoir parce que, en fait, la déstabilisation du Mali est une des conséquences de l'intervention occidentale et américaine en Libye. Et autant plus d'espoir que l'armée française est sur le territoire malien aujourd'hui et qui nous a aidés. Et j'aimerais qu'ils continuent encore à travailler avec l'armée malienne afin de nettoyer un peu, de nous sécuriser. Et je voulais ajouter que la crise libyenne a contribué à amener la légion étrangère libyenne qui était composée essentiellement de Touaregs maliens et de Touaregs mauritaniens ou algériens, qui du coup, après la chute de la Libye, de Kadhafi, se sont retrouvés au nord du Mali par la complicité de nos deux voisins, la Mauritanie et l'Algérie. Et donc, pour moi aujourd'hui, que la France reconnaît son tort par rapport à cette intervention, ne peut être que bénéfique pour nous, dans la mesure où ça va nous permettre à clarifier cette situation de la crise au nord, oui, qui n'est pas une question d'autochtones. Alors, le Mali est rempli de 1000 autochtones, et donc voilà.
Et diriez-vous, comme l'affirment certains auditeurs sur la page Facebook, que la France doit désormais aller plus loin et demander pardon au peuple libyen et plus largement au peuple africain?
Bon, je ne partage pas forcément cette idée, parce qu'en réalité, à un moment, si on voyait les militants de Benghazi qui se sont levés, il y avait quand même un encouragement à l'interne. Il y avait des problèmes tribaux. Il y avait des gens qui étaient pour cette intervention. Mmh. Donc, on avait vu le président de l'autorité intérimaire transitoire qui se pavanait à travers tout le continent pour promouvoir effectivement l'intervention. Je pense que non, on ne va pas aller jusque-là, mais il faut régler déjà les conséquences immédiates de cette intervention. Ouais. Et deuxièmement, essayer de voir dans quelle mesure le peuple libyen aussi est prêt à continuer.
Enfin, le peuple libyen est prêt en tout cas à tourner la page. On le voit, on voit l'engouement que suscite la perspective des élections législatives et présidentielles prévues cette année. Plus de 2 millions de personnes sont allées s'inscrire sur les listes électorales. 2 millions sur à peu près 6 millions d'habitants. Il y a des files d'attente devant les bureaux pour s'inscrire sur les listes électorales. Donc il y a un véritable engouement, d'autant que ces élections nous sont présentées comme étant le moyen, en tout cas l'un des moyens, de pouvoir mettre définitivement un terme à la crise qui déchire ce pays depuis maintenant 7 ans. Vous parliez de Benghazi, c'est important de rappeler que officiellement les frappes aériennes de l'OTAN ont été lancées pour des raisons humanitaires, puisque Muammar Kadhafi promettait de nettoyer Benghazi maison par maison, rue par rue, disait-il à l'époque, et il fallait donc à tout prix protéger la population de cette ville qui était considérée comme une ville rebelle. Mohamedou Ouagadougou, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour RFI.
Vous êtes à Ouagadougou, est-ce que vous partagez l'enthousiasme exprimé à l'instant par Abderrahman?
Pas tout à fait. Dans le fond, je salue également cette intervention de M. Macron, c'est du courage politique, il fallait le faire. Mais une fois qu'on l'a fait, qu'est-ce qu'il faut bien poser comme acte après? Une intervention militaire pour nettoyer la Libye de ces petits groupuscules terroristes-là, bien sûr. Mais le fond, c'est la stabilité politique du pays. La Libye n'a pas aujourd'hui un gouvernement reconnu de tous et par tous. Donc, l'aide de la communauté internationale, avec la France qui vient de faire cette importante déclaration, il faut mettre en place un gouvernement. Notamment, vous parlez des élections à venir. C'est une très bonne chose. Il faut accompagner ce pays-là à mettre en place une autorité centrale reconnue par tous avec une certaine légitimité. Une fois que cela est fait, en ce moment, l'aide militaire, la formation des troupes libyennes peut venir maintenant pour essayer de mettre de la stabilité dans ce pays-là. N'oubliez pas aussi que cette intervention de l'OTAN à l'époque, elle a ouvert une porte de Pandore. Aujourd'hui, la question de la migration, de tous ces gens qui vont se jeter dans la mer, c'est à partir de l'éclatement de la Libye. Et donc, il est de l'intérêt également de la communauté de l'Union européenne, avec la France en tête, de mettre un là à tout ça là, et puis de donner à Libye l'avenir qu'il mérite.
Oui, c'est vrai que la lutte contre l'immigration illégale est une des priorités du président Macron, et le président Macron veut une Libye stable, puisque la Libye est un pays de transit, et la France a besoin d'un État stable, justement, pour pouvoir signer des accords sur les contrôles des frontières. Merci à vous, Mouamadou, bonne journée à Ouagadougou, un détour tout de même sur la page Facebook de l'émission. Par exemple, Thierno pense que Macron se démarque complètement de ses prédécesseurs. On se souvient encore des propos qu'il a tenus en Algérie sur la colonisation. Je trouve qu'il est très cohérent et c'est une bonne démarche. Maïga nous dit sur Facebook également que la chute du régime Kadhafi a provoqué une onde de choc qui déstabilise le Sahel et le Maghreb. La France s'est engagée dans la guerre en Libye sans réfléchir aux conséquences. Nous sommes des victimes collatérales, nous dit Abdoulaye. Tout le problème du Mali s'est aggravé depuis cette intervention. La France doit jouer le rôle de facilitateur, nous dit Beldoum, également sur Facebook. La France se doit aujourd'hui de rapprocher les différentes tendances afin de déboucher à une élection sans ingérence, conclut donc cet auditeur. Bonjour Abdel.
Oui, bonjour Anne.
Vous êtes à Conakry et vous n'avez pas été indifférent aux propos d'Emmanuel Macron jeudi dernier à Tunis. Allô, allô,
Abdel. Oui, bien sûr. Ah. Oui, bien sûr. Je félicite le président Macron. Oui, je félicite le président Macron de son audace de reconnaître la responsabilité de la France de l'intervention militaire en Libye. Parce que moi, vous n'êtes pas sans savoir que le 19 mars 2011, il y a eu l'intervention militaire en Libye. C'était pas pour bombarder Kadhafi, c'était de mettre en place une zone d'exclusion aérienne à Benghazi pour empêcher les avions de chasse de Kadhafi d'aller bombarder la ville de Benghazi. Donc on a vu tout à fait le contraire. Ils ont bombardé Kadhafi, son palais présidentiel, ses camps militaires. Aujourd'hui, la Libye est laissée au compte-gouttes. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus de sécurité, il y a l'instabilité totale en Libye aujourd'hui. C'est une désolation. La France, en l'occurrence la France, le Royaume-Uni et les États-Unis sont entièrement responsables de l'effondrement du régime du colonel Kadhafi. Aujourd'hui, c'est ce qui a fait susciter l'immigration qu'on voit aujourd'hui en Libye. Ça, il faudrait que la France reconnaisse ses torts, pour dire aussi, demander pardon au peuple libyen et au peuple africain. Je suis très très déçu des dirigeants africains, des chefs d'État africains, en l'occurrence l'Union africaine, la CEDEAO, de ne pouvoir absolument rien faire pour vraiment empêcher cette intervention militaire contre le colonel Kadhafi.
Elle avait essayé, attendez, l'Union africaine, on va pas refaire le débat de l'époque, même si je sais que vous rêvez tous de refaire le débat de mars 2011, lorsque l'Union africaine, de son côté, avait dit, pas question d'envoyer de lancer des frappes sur la Libye. Il se trouve qu'au moment de voter la résolution à l'ONU proposée par la France, eh bien les trois pays africains qui étaient à ce moment-là au Conseil de sécurité ont voté oui. Ils auraient pu s'abstenir, ils ne l'ont pas fait. Ils ont voté pour déclencher ces frappes aériennes. L'histoire est ainsi, on ne va pas la refaire malheureusement, mais je comprends effectivement cet sentiment de déception que vous ressentez encore aujourd'hui, Abdel, comme beaucoup d'auditeurs. Je voudrais qu'on donne la parole à Bouba. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous êtes à Dakar, au Sénégal.
Oui.
On vous écoute.
Alors, voilà, donc moi, ce que je voulais dire par rapport à ce qui s'est passé en Libye, c'est que la France aurait eu le grand mérite de réussir, en fait, à engager une dynamique de paix en Libye, après avoir eu le malheur de contribuer au chaos actuel. Donc, ce qui doit se passer, en fait, c'est qu'aujourd'hui, le fait que Macron a déjà intervenu en disant qu'il regrette et qu'il reconnaît que la France ou l'Occident a mal fait d'intervenir en Libye, je pense que ça, c'est déjà un premier pas qui a été fait, en fait. Donc, ce qu'il faudrait faire maintenant, il faudrait essayer de reconstituer les mêmes pays qui ont détruit la Libye, de réorganiser, en fait, les armées pour essayer de chasser, en fait, les terroristes qui sont en Libye, qui sont en train de créer tout un chaos qui empêche la démocratie à revenir dans le pays.
C'est-à-dire, attendez, vous êtes en train de nous dire qu'il faut aujourd'hui que ces mêmes pays qui ont voté donc la résolution à l'ONU en 2011 s'unissent et déploient une force sur le territoire libyen, une force militaire.
Exactement, pour essayer de chasser, en fait, tous ces milices qui sont là déjà, qui sont en train de détruire, en fait, ce qui reste que l'OTAN a détruit. Je pense que ça serait, en fait, une bonne chose déjà, pour commencer. Parce que déjà, tout ce qui se passe dans le Sahel, c'est une partie liée à ce qui s'est passé en Libye. Et le fait de partir dans des pays en essayant d'instaurer une démocratie, dans des pays qui sont déjà stables, parce que cette dictature que tout le monde était en train de crier en 2011, c'était pas une dictature qui était négative aux populations. Parce qu'aujourd'hui, les populations, en fait, regrettent, en fait, le passé de cette dictature.
Ouais.
Donc, ça n'a rien servi, la France ou l'OTAN. À mal fait, en fait. C'est vraiment un gros problème.
Alors, vous avez avancé, en tout cas, Bouba, vous avez avancé cette idée de déployer une force onusienne, enfin, c'est moi qui rajoute le mot onusienne, hein, mais en tout cas, vous souhaitiez une force internationale sur le territoire libyen pour stabiliser le territoire. Je ne sais pas si Didier de la région parisienne partage cette vision des choses. Bonjour Didier.
Bonjour Juan.
Qu'en pensez-vous ?
Je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur qui vient juste de passer à l'instant même. Nous ne devons pas oublier que l'État libyen sous Kadhafi n'a jamais existé. Kadhafi gérait directement depuis sa présidentielle tout le pays et qu'on n'a jamais construit un véritable État. Je salue le courage d'Emmanuel Macron de reconnaître la responsabilité de la France et des États occidentaux qui sont intervenus sans projet politique. Maintenant, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'on ne va pas refaire l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est passé. Il faut maintenant regarder vers l'avenir.
Oui, et c'est à l'Union africaine de tirer les leçons et les conséquences de son comportement et des divisions internes à l'époque.
Mais vous avez raison, Juan. Vous avez rappelé tout à l'heure cette réunion au Conseil de sécurité. Mais il n'y a pas longtemps, RFI, par le biais de RFI, nous avons appris que les présidents africains ont maintenant pris conscience que l'Union africaine doit s'autofinancer. Et donc, on verra dans l'avenir comment ça va fonctionner.
Alors, vous parliez, Didier, vous parliez de courage. De très nombreux auditeurs, des dizaines, nous disent, bon, c'est très bien de critiquer l'opération de l'OTAN qui a entraîné la mort de Kadhafi. C'est une chose, nous dit par exemple Abdou. Mais il faut maintenant avoir le courage de traduire devant la Cour pénale internationale les responsables de cette intervention.
Alors, écoutez, je ne sais pas si c'est une bonne solution ou même c'est une solution envisageable de traduire les responsables de cette intervention. Le premier auditeur qui est passé a bien dit que cette intervention, même si on peut en condamner la forme, même si on peut condamner le fait qu'il n'y ait pas de projet politique qui devrait suivre l'intervention militaire, mais une bonne partie des Libyens ont salué. Je me souviens même que Sarkozy a été accueilli en héros lorsqu'il a fait sa première visite en Libye après les frappes.
Effectivement, donc, et on se souvient que le drapeau français flottait dans cette ville libyenne, il me semble que c'était à Benghazi, hein, lors de la présence du président Sarkozy en Libye. Merci à tous, le débat est loin d'être clos, on aura certainement l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines. Demain, gros plan sur la Guinée. Hier, 6 millions d'électeurs étaient appelés à élire les nouveaux conseils municipaux, des élections très attendues. Il faut dire que les dernières élections locales remontent à 2005. En tout cas, dès hier soir, l'opposition a dénoncé des fraudes massives. On en parle demain.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. Transfert international entre la Côte d'Ivoire.